Bonjour, bon matin. Mon nom est Sylvain Plouffe et je suis un des pasteurs ici à l'église Le Sentier. Et je veux vous souhaiter la bienvenue ce matin. J'aimerais qu'on passe un temps dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous puissiez m'accompagner parce que c'est quelque chose qui se fait tous ensemble et quelque chose qu'on veut ouvrir la parole de Dieu et la laisser nous parler. Alors, sans plus tarder, j'aimerais, si vous le permettez bien, vous conduire dans un mot de prière où est-ce qu'on va remettre le temps qu'on va passer ensemble à Dieu, mais aussi le temps pour que le Seigneur dirige et qu'il inspire chacun des moments et qu'il me dirige par son esprit pour que je sois capable de vous communiquer ce que j'ai préparé au pied de son trône de grâce. Père éternel, on est courbé devant toi. On vient en toute humilité, sachant que tu es le Dieu qui enseigne, le Dieu qui instruit et le Dieu qui ne veut pas retenir ses bénédictions pour ceux qui s'approchent de toi. Comme le dit ta parole, tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Alors Seigneur, on te demande de nous bénir ce matin, de nous permettre qu'on passe un temps agréable et un temps où est-ce que tu nous instruis, que tu parles à nos cœurs, à chacun d'entre nous. C'est ta parole, c'est la vérité. Alors, qu'elle fasse ton chemin, son chemin par ton esprit, dans nos cœurs, dans nos vies, pour ta gloire à toi et à toi seul, Seigneur. Amen. Eh bien, ce matin, on veut parler ensemble de mariage. Le sujet du mariage m'inspire plus que tout autre sujet. Et la raison est simple, c'est que j'ai pas toujours eu une vie en règle avec le Seigneur et j'ai été humilié en passant à travers un divorce. Et depuis ce temps-là, je cherche à comprendre et à mettre en pratique les enseignements de Dieu dans ma vie pour valoriser la pensée de Dieu dans mon mariage, pour m'arrêter et me laisser instruire par la parole de Dieu au sujet du mariage. Et sans plus tarder, je veux tourner avec vous dans les Écritures et regarder ensemble un passage. Je ne veux pas en faire l'étude exhaustive verset par verset, mais je veux vous donner trois principes ce matin qu'on retrouve dans ce passage qu'on va lire ensemble. Alors, sans plus tarder, on va tourner dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 21. Puis on va lire ensemble. Et c'est un passage qui est classique au mariage. C'est un passage que les gens reconnaissent comme étant... souvent, il est mentionné par les théologiens comme étant le chapitre ou l'endroit dans la lettre où le mariage est adressé. Il y en a d'autres endroits, mais celui-là, c'est un passage qui est souvent discuté, puis il a fait couler beaucoup d'encre à cause qu'on parle de la soumission. Et ce matin, on va voir trois points dans ce passage des Écritures. Alors, sans plus tarder, Éphésiens 5, j'espère que vous avez eu le temps de prendre vos Bibles, de tourner avec moi. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, ce matin, j'aimerais faire un point, une parenthèse, avant même de commencer le message. J'aime penser que nous sommes tous mariés. Et pourquoi je tire cette conclusion-là des Écritures, c'est parce que Christ appelle l'Église son épouse. Et que, en tant que personne qui est en relation avec Jésus-Christ, on est considéré comme l'épouse de Christ. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en relation de couple, c'est-à-dire dans les liens du mariage, j'aimerais que vous vous sentiez interpellé par le message de ce matin. J'aimerais que vous puissiez considérer chacun des éléments qui vont être soulevés. Et c'est certain que quand on parle de relation avec Jésus-Christ, on parle d'avoir reconnu que Jésus-Christ est venu sur la terre et a pris notre place à la croix. C'est-à-dire qu'il a payé pour nos péchés, pour nous mettre en règle avec le Père céleste, pour nous mettre en règle avec Dieu. Il est l'accomplissement de la promesse où Dieu a dit qu'il était pour renvoyer son Fils, qu'il était pour renvoyer un roi libérateur sur la terre. Et ce roi libérateur, c'est Jésus-Christ. Et je dois reconnaître que quand j'ai suivi mes propres voies, je n'ai pas suivi les voies de Dieu. Et en reconnaissant cela, je me repens, je me détourne de mes voies pour me tourner vers Dieu. Et je reconnais que Dieu est dorénavant maître et seigneur de ma vie. Et en faisant partie de son Église, Christ, il dit maintenant que je suis un enfant de Dieu. Et il dit qu'il me nourrit puis il prend soin de moi. Comme il est dit dans le verset 29. Mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on prenne les enseignements de ce matin en trois points. Mais je veux que tout le monde se sente interpellé. Je ne veux pas que personne se sente mis à part. Je ne veux pas que personne puisse penser, « Moi, là, le message ne s'adresse pas à moi ce matin. Fait que je peux fermer la télé ou je peux fermer mon ordi. » Ce n'est pas le cas. Je veux que tout le monde se sente appelé, que tout le monde se sente concerné. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour tous et chacun. Et si un jour votre situation change puis que vous devez vous marier, eh bien, vous aurez entendu. Vous aurez entendu ce que le Seigneur attend de vous. Et j'aimerais que vous vous sentiez concerné ce matin. Donc, comme il est écrit dans Romains 10, 13, « Ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus vont être sauvés. » Et que nous sommes tous mariés à Christ. Merci de m'avoir permis d'ouvrir cette parenthèse. Et maintenant, en préparant le message sur le mariage, après avoir lu à maintes reprises ce passage, et après avoir écouté des frères de la trempe de Timothy Keller ou de John Piper ou de C.S. Lewis, j'aimerais vous apporter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Et une des choses qui m'est venue à l'idée, une des images, c'est que je trouve que le mariage, ça ressemble à une école. Bientôt, on va réenvoyer nos jeunes à l'école. Nous, on a des petits-enfants qui commencent la primaire, d'autres qui sont rendus au secondaire. Puis pour certains d'entre vous, c'est peut-être le collège, d'autres l'université. Et je trouve que le mariage, c'est une école. Et chacun des niveaux est représenté dans notre système d'éducation. C'est-à-dire, nos petits-enfants commencent à la maternelle où ils sont enseignés les rudiments de l'éducation. Ils apprennent à compter, ils apprennent leurs couleurs. Ensuite, les additions, les soustractions aux primaires, les divisions. Et peut-être que je ne suis pas très aligné avec le système d'éducation. Peut-être c'est plus tôt, peut-être c'est plus tard. Mais je sais par contre qu'on ne fait pas d'algèbre en maternelle. Et le Seigneur nous instruit, nous enseigne au fur et à mesure qu'on avance dans notre formation. Au fur et à mesure qu'on avance avec la capacité qu'on a, puis le niveau qu'on a atteint. Mais chaque niveau demande des devoirs. Chaque niveau demande d'être engagé. Et au désarroi de certains professeurs, parfois, avec qui je discute, de voir des jeunes pleins d'intelligence, pleins de capacités, et refuser d'apprendre, dire « Ah, c'est trop difficile, c'est trop dur, je ne pourrais pas comprendre. » Pourtant, ils sont totalement équipés, ils ont les professeurs derrière eux qui veulent les enseigner, qui veulent les instruire. Et ça conduit à mon premier point. En fait, ça prend de l'humilité pour apprendre. C'est la clé, c'est la porte d'entrée. Personne ne peut apprendre s'il ne se soumet à quelconque autorité. Personne ne peut apprendre s'il ne se soumet à quelqu'un qui l'enseigne. Eh bien, dans les Écritures, ici, on nous demande de nous soumettre les uns aux autres dans un but, c'est-à-dire d'apprendre les uns des autres. L'humilité, nous dit Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 6b. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. La clé de l'apprentissage réside dans l'humilité. Et quand Dieu nous enseigne quelque chose, il veut renouveler notre intelligence. Gilles Farley a touché ce point-là la semaine dernière. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas aux choses du monde, mais plutôt ayez une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous enseigner. Cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous instruire avec. La parole est pleine d'instructions. Elle est pleine de préceptes, de concepts pour votre croissance, pour notre croissance. Je veux m'inclure avec ça. Moi aussi, j'apprends et je veux continuer d'apprendre comment Dieu agit dans ma vie. Et c'est les plans de Dieu pour mon mariage. Ça fait 19 ans que Lynn et moi, on est mariés. 19 ans qu'on apprend l'un de l'autre. 19 ans que le Seigneur nous enseigne à chacune des étapes. Il se révèle à nous. Il nous instruit. Il nous corrige. Mais je vous dis que ce n'est pas toujours évident de nous humilier. Mais je sais, et j'ai appris, que la clé, c'est l'humilité. Ennemi numéro un. Premier point, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le « je » qui veut prendre toute la place. Le « je » qui veut contrôler. Le « je » qui veut avoir main basse sur les finances. Le « je » qui veut avoir main basse sur toutes les décisions. Le « je ». Ennemi numéro un, l'égoïsme. Et ça fait écho dans ma tête en tant que chrétien, n'est-ce pas? Peut-être que ça fait écho vous aussi, dans votre propre tête. Adam et Ève ont été enseignés de Dieu dans le jardin. Adam et Ève se sont trouvés dans la présence de Dieu dans le jardin. Dieu leur a tout donné. Un beau jardin avec des fruits qui n'avaient pas besoin d'être cueillis ou attendre d'être dans leur saison pour être cueillis, mais ils pouvaient arracher de l'arbre et manger directement de n'importe quel arbre, sauf un. Et c'est sur cet arbre-là que l'ennemi est venu semer le doute. C'est sur cet arbre-là que l'ennemi a dit, « Est-ce que Dieu a vraiment dit? » Est-ce que Dieu ne vous a pas caché quelque chose à place de ne pas vous révéler ce qui pouvait arriver avec cet arbre-là? Pourtant, Dieu avait bien dit, « Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. » Mourir, qui veut dire « séparer d'eux », c'est-à-dire que si vous devenez empreint du mal et que votre conscience s'ouvre au mal, Dieu ne peut plus être dans votre présence parce qu'il n'y a pas de mal en Dieu. Et pourtant, ils se sont détournés de l'enseignement de Dieu. Ils ont refusé de s'humilier. Et Dieu nous interpelle à la même chose aujourd'hui à travers Jésus-Christ. Il veut qu'on s'humilie, il veut qu'on obéisse. Il veut qu'on écoute, il veut qu'on entende. Il veut nous diriger par son esprit. Est-ce qu'on va répéter la même chose qu'Adam et Ève? Parce qu'il y a un genre de pattern dans les Écritures. Pattern, en français, il y a un genre de scénario où il y a un genre de choses qui se répètent. Et si vous remarquez bien, c'est la vision, voir, convoiter, s'approprier et mentir. Un autre qui me vient en tête, c'est David qui marchait sur son palais, puis il voit Bathsheba qui est après se baigner, qui est nue. Il voit, il convoite, il s'approprie la femme de quelqu'un d'autre, puis il ment. Puis il pousse la mensonge au meurtre, puis il pousse, et pousse, et pousse, et pousse. Jusqu'au temps où il est repris par Dieu. Puis je suis certain que si vous creusez les ménages un peu, vous allez retrouver ce genre de scénario ou de pattern-là dans les Écritures, où est-ce qu'il y a vue, convoitise, appropriation et mensonge. Alors, c'est-tu vraiment le mode qu'on veut prendre? C'est-tu vraiment la voie vers laquelle on veut aller dans notre mariage? Ou si on veut s'arrêter, s'humilier et nous laisser enseigner de Dieu. En fait, si je vis mon mariage dans ma propre façon de voir, c'est parce que je cherche mon propre intérêt. C'est parce que je ne laisse pas de place à Dieu pour m'expliquer comment le mariage devrait fonctionner, mais plutôt je veux imposer à ma conjointe ce que je désire. Et le « je » peut être au masculin, mais peut être aussi au féminin. Le « je » se retrouve, il peut prendre beaucoup de place au féminin aussi. C'est pas juste l'homme qui est appelé à se soumettre à Dieu et se soumettre à Christ. Mais nous sommes appelés en tant qu'équipe, en tant que famille, en tant que noyau, en tant que couple, en tant que mariage, à nous soumettre à Dieu. Je vois dans mon cœur l'égoïsme qui est en mode réactif. Et quand mon cœur est en mode réactif, bien, il protège le « je ». Il protège moi. Mais par contre, Dieu, ce qui m'interpelle à faire, c'est d'être en mode écoute. C'est-à-dire que le mode réactif protège le « je », mais le mode écoute ouvre la porte aux possibilités. Alors, si je veux être enseigné de Dieu, si je veux que mon mariage grandisse, si je veux que Dieu puisse m'enseigner, il faut que je m'humilie. Il faut que je cherche ce que Dieu veut pour moi. Il faut que je cherche ce que Dieu désire me communiquer, ce qu'il désire m'enseigner. Et c'est en écoutant Dieu et en m'humiliant qui est la clé de l'apprentissage. Aujourd'hui, j'invite chacun de nous de regarder notre propre égoïsme comme étant plus important que celui de l'autre. Autrement dit, mon égoïsme à moi, Sylvain, il est plus important que l'égoïsme de Lynn. Et si vous ne croyez pas que Lynn peut être égoïste, bien, vous pourriez lui demander après, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est juste moi qui dis ça. Mais vous pourriez lui demander, communiquer avec Lynn et lui demander si, parfois, son « je » ne veut pas prendre la place. Alors, si aujourd'hui, chacun de nous regarde son égoïsme comme plus important que celui de l'autre, bien, c'est là qu'on va peut-être apprendre à se servir un l'autre. C'est là peut-être qu'on va apprendre à se soumettre les uns aux autres. Ce qui nous conduit vers un deuxième point important dans le mariage. Donc, le premier point, l'égoïsme, ennemi numéro un. Je suis centré sur le « je » et je ne suis pas ouvert au progrès de l'équipe, ni au progrès de mon mariage, ni au progrès de ma famille. Je veux l'accomplissement de ma carrière, je veux l'accomplissement du « moi », je veux l'accomplissement de ce que « moi » je crois important. Je veux faire ce que j'ai le goût de faire et mon épouse doit se soumettre et me suivre. Ce n'est pas tout à fait ce que Dieu enseigne ici. En fait, ce n'est pas ça du tout que Dieu enseigne ici. La deuxième étape, c'est la promesse. Deuxième chose que j'aimerais voir avec vous. Donc, en premier, on a vu l'égoïsme. On va passer un temps dans la promesse, puis je veux qu'on passe un temps aussi dans le jardin d'Éden. Dans la promesse, il y a le fait que on veut faire partie d'une équipe. En fait, Chesterton, puis ça, j'ai lu ça dans le livre de C.S. Lewis sur Mere Christianity, le christianisme au plus simple, ou quelque chose du genre, que ça ressemble en français. Mais c'est C.S. Lewis qui est l'auteur. Puis il rapporte que M. Chesterton, une des citations, puis quand j'ai regardé Google M. Chesterton, je me suis rendu compte que c'était un homme qui avait beaucoup de citations. C'est un homme réfléchi, un homme qui communiquait des vérités à travers ses réflexions puis ses citations. Il dit, quand on est en amour, on est porté à faire des promesses. Puis on est tous comme ça. Alors, la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est quand mon cœur fond devant mon épouse puis que j'ai tendance à lui promettre la lune, comme certains diraient. Mais que je me rappelle, j'étais ici, debout sur cette estrade, où j'ai fait promesse que je prendrais soin de Lynn, que je m'occuperais de ses besoins, que je m'occuperais d'elle dans toutes les dimensions, que ce soit émotive, que ce soit affective, que ce soit santé, que ce soit spirituel, bien que Jésus est le seul pourvoyeur dans ce domaine-là. Je pointerai toujours dans cette direction-là. Et je voudrais qu'on se rappelle ensemble les promesses. En fait, il y a des couples qui viennent chez nous, puis on repasse leurs promesses qui se sont faites ensemble. Puis moi, je leur dis tout le temps, je ne connais pas personne à date qui est venu nous voir, puis qui nous a dit, moi, quand je me suis marié, là, j'ai promis que je ferais tout pour la détruire. J'ai promis que je ferais tout pour lui nuire. J'ai promis que je ferais tout pour lui faire part de sa crédibilité. Non, c'est pas ça du tout que ça ressemblait à nos promesses. Nos promesses étaient teintées de l'amour qu'on avait à cette époque, qu'elle soit émotive ou qu'elle soit affective ou qu'elle soit déterminée par le désir de s'engager avec quelqu'un. Ou qu'on ait compris que l'amour, ce n'était pas juste les émotions. Quand on s'est marié, on a pris un engagement. Puis cet engagement-là, on a voulu le vivre avec, moi dans mon cas, c'était avec Lynn, mais chacun d'entre nous. Même avec Jésus-Christ, on a pris cet engagement-là. On a pris l'engagement de vivre dorénavant en se conformant aux pensées de Jésus-Christ, puis en se conformant aux demandes, puis en cherchant à obéir à Dieu plutôt qu'à notre vieille nature. Alors, qu'est-ce que la promesse? En fait, John Piper a écrit deux messages qui disent « Rester marié ne veut pas dire rester en amour. » Pourquoi? Parce que l'amour est une émotion. Une émotion qui est commandée, bien sûr, dans les Écritures, lorsqu'il nous dit « Aimez vos femmes, aimez votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée. » C'est une émotion qui est commandée, mais c'est beaucoup plus qu'une émotion. Et ceux qui sont mariés depuis plusieurs années savent que les émotions partent, puis que des fois, elles disparaissent, mais que l'amour réel demeure et fait des racines. Puis même si il n'y a rien en dessous qui paraît, rien au-dessus qui paraît, on sait qu'en dessous, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme une forêt qui passe au feu, puis que après quelques années, tu passes, puis les arbres ont repoussé. Ils ont eu beau radier, puis raser, le feu a rasé tout son passage. Ça a l'air d'une plaine, ça a l'air d'un champ cultivé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est vraiment rasé, calciné. Et pourtant, ça repousse. Au bout de quelques années, les racines reprennent. Peut-être que votre mariage est rasé par le feu. Peut-être que vous avez oublié qu'il restait des racines. Mais Dieu vous promet que ça va repousser. Dieu vous promet que ça va glorifier son nom. J'ai lu un livre et vu un film qui s'appelle Promise Kept, La promesse tenue. Désolé, je me nourris beaucoup en anglais et ça transparaît dans le message. Mais j'essaie de, quand même de vous le rendre au maximum en français. Et je crois que ce film-là a été traduit. Et il s'agit d'un homme, puis c'est inspiré d'une histoire vraie, un homme dont l'épouse est atteinte par l'Alzheimer. Et au lieu de la mettre dans un foyer et de faire prendre soin d'elle, ce qui n'est pas mal en soi dans un certain niveau de maladie, je comprends qu'il y a des gens qui ne se sentent pas aptes à prendre soin, mais lui a pris soin de sa femme, puis même à un moment où est-ce qu'elle était, elle était hospitalisée ou placée dans un endroit, il est allé la visiter régulièrement. Et il avait pris l'engagement que même dans la maladie, qu'il en prendrait soin. Et tout le film tourne autour de prendre soin de sa femme. Mais il a tenu sa promesse. Et à un certain moment donné, l'homme dit même, c'est un privilège de prendre soin de mon épouse. C'est un privilège de l'accompagner. Sa seule prière devant Dieu, c'était, Seigneur, permet que la maladie ne la rende pas agressive et aigrie. Permet-moi qu'elle demeure la femme joyeuse que j'ai connue toute ma vie. Et Seigneur répondait à cette prière-là. Et toute sa vie, le restant de ses jours, la femme, elle a gardé sa bonne humeur. Savez-vous quand elle devenait insécure? Savez-vous quand elle devenait inquiète? Savez-vous quand elle versait des larmes? Quand son mari n'était pas à côté d'elle. Quand son mari n'était pas là pour la sécuriser. Quand son mari n'était pas là pour prendre soin d'elle. Mais il a tenu sa promesse. Il était là jusqu'au dernier jour. Vous allez me dire, ah, c'est un film. Je suis d'accord, c'est un film. Mais ça demeure, que c'est la promesse, elle a été tenue. Et qu'est-ce que ce serait si Christ ne traînerait pas sa promesse? En fait, tout est accompli. Il a tenu sa promesse. Et combien de promesses Dieu nous fait-il à travers les Écritures? Est-ce qu'on compte sur Dieu pour accomplir ses promesses? Oui. Oui, on compte sur Dieu. Il ne changera pas d'idée. Il n'aura pas peur. Il ne sera pas épouvanté par rien. Il ne courra pas loin d'une situation. Non. Dieu va tenir ses promesses. Il nous a demandé de tenir les notes aussi. Vous savez, le capitaine du bateau Titanic a coulé avec son bateau. Il a tenu sa promesse. Il a tenu son engagement. Alors, je vous invite à considérer notre promesse. Si votre mariage a passé au feu, si votre mariage bat de l'aile, si votre mariage est florissant, rendez gloire à Dieu. Et demandez-lui de vous inspirer dans ses enseignements, de vous conduire à travers ces temps difficiles que vous vivez. Ensuite, comme dernier point, j'aimerais qu'on passe quelques instants sur le Jardin d'Éden. En fait, le Jardin d'Éden, où est-ce que Adam et Ève ont eu le privilège d'être dans la présence de Dieu, nous, on soupire après. On est mariés deux pécheurs. Et nos attentes sont comme ça. On a des attentes super élevées. Et dans son livre, C.S. Lewis l'exprime bien. Depuis qu'on est haut comme trois pommes, on est élevé dans une culture où les films, où les livres, où les histoires qu'on nous raconte sont toutes celles qui aspirent à ce prince charmant, qui aspirent à cette princesse, qui aspirent à ce mariage grandiose, digne d'un roi, qui aspire à toutes ces belles choses qu'on met devant nous. Et bien souvent, on s'imagine des scénarios. Puis on devient, puis là je ne veux pas me tromper parce que c'est ça que, de la façon que c'est inscrit, mais on devient que notre plaisir est plus dans l'anticipation que dans la réalité. Et on est amèrement, terriblement déçu. Puis la raison pourquoi on est déçu, la raison pourquoi on est amèrement déçu, c'est parce qu'on avait des attentes. C'est parce qu'on nous avait dit, on nous avait conté que c'était ça, être marié, qu'on rencontrerait un jour la femme de notre vie, l'époux de notre vie, et que si on rencontrait le bon, tout serait facile. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Ce n'est pas du tout ce que Dieu nous dit par rapport au mariage. Paul, il nous dit par rapport au mariage dans les Écritures, il dit, vous allez être tenté de bien des façons et je voudrais vous l'éviter. Fait que, évitez de vous marier si vous ne voulez pas être tenté comme ça, parce que sinon vous vous attirez des problèmes. Ça ne peut pas être plus clair. Là. Ça ne peut pas être plus clair. Dieu va servir de l'épreuve des deux idées, des deux caractères qui se cognent ensemble, qui se frottent, puis Dieu va former notre cœur avec ça. Maintenant, quand ça cogne, ça fait mal. Puis quand ça fait mal, bien, on a tendance à vouloir se retirer. On a tendance à vouloir s'éloigner plutôt que de s'approcher. Mais Dieu nous dit, non, non, ça fait mal, approche. Ça fait mal, instruis-toi. Je ne me rappelle pas qui, mais un homme qui a dit un jour, ce qui blesse, instruit. Je parle, je n'irai pas me blesser volontairement pour m'instruire, hein? Mais c'est dans l'humilité, dans l'écoute. Puis des fois, qu'est-ce qui blesse, ça s'adresse plus à mon jeu. Ça s'adresse plus à quand je prends trop de place. Mais j'aspire au Jardin d'Éden. Je veux être heureux. Je veux être dans l'abondance. Je veux être dans la joie. Puis je veux que ma femme aussi soit dans la joie. Je veux qu'elle soit heureuse, elle aussi. Mais bien souvent, j'ai des attentes que si je fais ça, elle va être heureuse. Alors je le fais, elle n'est pas plus heureuse. Peut-être que si je lui demandais qu'est-ce que je peux faire, ça aidait. Peut-être que si je cherchais à la servir, ça aiderait. Alors, si je reconnais mon égoïsme et que je cherche à travailler sur cet égoïsme et je cherche à la servir plutôt qu'à deviner ses besoins. Peut-être que si je tenais mes promesses d'en prendre soin et de chercher à lui plaire et de lui demander « Comment vas-tu, chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour te plaire aujourd'hui? » Mais ça, je veux le voir la semaine prochaine avec vous. Je veux passer un peu de temps la semaine prochaine en regardant quels sont les éléments de construction. Qu'est-ce qu'on peut amener dans notre mariage qui va nous aider à construire ce mariage? Qu'est-ce que les Écritures nous rapportent qu'on peut servir pour construire le mariage? Et nous rappeler, frères et sœurs, que, un, l'égoïsme, le jeu, peut prendre trop de place. Deux, nos promesses, s'attacher à nos promesses. On s'attache aux promesses de Dieu. On sait que Dieu va les mettre de l'avant. On sait que Dieu va les concrétiser. Bien, il faut, nous aussi, qu'on mette en place tous les éléments nécessaires pour tenir nos promesses. Ensuite de ça, le jardin d'Éden. Est-ce que nos attentes sont trop hautes envers notre conjoint, notre conjointe? Est-ce qu'on recherche auprès d'eux l'accomplissement de notre bonheur? Je vous invite à considérer ces trois éléments cette semaine. Loin d'avoir fait le tour de tout le passage lu en début de notre rencontre ce matin, on a effleuré le sujet. Et je voudrais prier avec vous, pour vous, comme pour moi, pour que le Seigneur continue de vous enseigner là où est votre mariage. Si vous êtes en préparation de mariage et que la maternelle n'est pas commencée, bien, je veux prier pour vous. Puis si vous êtes dans une première année, dans les premiers mois de mariage, puis vous êtes en maternelle, bien, je veux prier pour vous. Le Seigneur a quelque chose à vous enseigner là aussi. Puis comme ça, ainsi de suite, pour chacune des étapes. Même si vous êtes rendu dans le doctorat du mariage, parce que j'en connais que ça fait 50 quelques années qu'ils sont mariés ici, le Seigneur a encore quelque chose à vous enseigner. Il va continuer de le faire jusqu'à temps que vous allez arriver dans sa présence. Il n'a pas terminé son œuvre. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à vous courber avec moi. Puis à remettre nos mariages, que ce soit conjoint, conjointe, ou que ce soit avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ aussi veut nous enseigner au sujet de l'intimité qu'on a avec lui, au sujet de la relation qu'on a avec lui. Courbons-nous. Seigneur Jésus, on est courbé devant ton trône de grâce. On vient en toute humilité. Pourquoi en toute humilité? Parce qu'on veut t'enseigner de toi, Seigneur. On sait que tu as toutes les réponses. Et je veux élever ma voix avec les disciples quand ils t'ont dit, « Où irions-nous? Où irions-nous, Seigneur Jésus? Tu détiens la vérité. Tu es la vérité. Tu es le chemin. » La vérité et la vie, nous dit l'Évangile de Jean. Alors, Seigneur, on vient à toi en candide, en toute humilité. On vient sans aucune prétention. Puis on sait qu'on a besoin d'être enseigné de toi. Alors, déverse sur nous, en nous, par ton esprit, tout l'enseignement que tu veux nous donner. Et continue de nous instruire pour qu'on puisse grandir, pour que nos mariages puissent exploser de ta gloire et que ton nom soit célébré pour l'éternité. Amen, Seigneur Jésus.